Poor Little Belgium, Pauvre Petite Belgique, une série proposée par Christine Mazui, avec le soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles. Réalisation, Jeanne de Barcy. Août 1914. Dans les villes martyrs, les civils sont au cœur du conflit. Quatrième épisode, Louvain et la guerre devient mondiale.
Peut-être les deux tiers ou les trois quarts des incidents, y compris les incidents les plus graves, se produisent en Wallonie, tout simplement parce que c'est par là que passe l'essentiel de l'invasion allemande.
John Horn, Trinity College, Dublin.
Mais en pénétrant au nord de la Meuse, en Brabant, bien sûr, en terre flamande, il y a également certains incidents très sanglants, très importants, notamment Arscott, Leuven.
Dans le sens chronologique, la première ville détruite, c'est Arscott.
La ville s'entasse de soldats allemands. Quelqu'un tire. On n'a jamais su qui a tiré, mais tout de suite, les Allemands ont dit que c'était le fils du bourgmestre. Mais le résultat, c'était de considérer que, encore une fois, c'était la ville entière, les habitants, qui se sont soulevés. Et donc, on a emmené 156 personnes, y compris le bourgmestre, son frère et son fils, qui ont été donc exécutés.
Le cas de Leuven, lui, est un peu différent.
Axel Dixon.
Il est plus tardif.
Comme Leuven était une gare de passage, chaque jour, il y a des milliers et des milliers d'Allemands en ville.
Marc Doré, archiviste à la KUL.
Évidemment, il y avait déjà des rumeurs sur des atrocités avisées dans d'autres villes wallonnes et surtout aussi à Arscott, tout proche de Leuven.
C'est une ville bourrée de soldats avec une tension très claire et il peut y avoir des soldats qui se tirent mutuellement les uns sur les autres.
Ils ont tiré sur eux, des troupes allemandes, sur des troupes allemandes, et on a donné la faute à la population civile. Et à ce moment-là, on a commencé à piller, à incendier la ville, immeuble par immeuble, maison après maison. Le soir du 25 août 1914.
Il y a une politique systématique de punition des populations.
Laurence Vanipperzel, professeur d'histoire, UCL.
Et là, on est dans un massacre qui n'est plus simplement dans la panique où on tire sur tout ce qui bouge. Là, on va chercher les gens dans les maisons. On poursuit quartier par quartier. On essaye de nettoyer la ville de tout ce qui pourrait être franc-tireur.
La population est en choc. On a abattu presque 250 personnes, aussi des femmes, des petits-enfants. Les vieillards même.
Marc Doré.
Ce n'étaient pas les francs-tireurs, les soi-disant francs-tireurs, parce que des petits-enfants, des vieillards, des femmes, ils ne peuvent pas avoir tiré. On a organisé un système de terreur pour intimider la population civile, pour démoraliser les politiciens belges, pour intimider les armées belges. Et le matin du 26 août, le centre-ville, les quartiers bourgeois et aussi l'îlot sacré de la ville historique a été incendié. On a averti des Allemands, des soldats allemands, mais ça, c'est la bibliothèque de Louvain, on ne peut pas incendier ça. Bon, ils ont continué leur travail d'incendiaire. Tout était dans cette bibliothèque de 300 000 volumes. Il y avait un millier de manuscrits, avec quelques manuscrits très importants, et il y avait presque un millier, 850 incunables.
C'est vraiment dans l'idée d'une punition par le feu.
Axel Dixon, professeur d'histoire, Université de Namur.
De punir le patrimoine culturel commun, nier à la Belgique une existence culturelle, une existence scientifique, une existence artistique. Et, aspect supplémentaire, l'Allemagne, le Reich en tout cas, étant majoritairement protestants, voient aussi d'un œil très méfiant l'Église catholique.
Et donc, pour eux, c'est atteindre le centre du catholicisme belge. Pourquoi ?
John Horn.
Parce que dans leur esprit, la guerre de franc-tireur en Belgique était alimentée, incitée par les prêtres. D'où l'importance symbolique de Leuven. Ils étaient persuadés que s'il y avait complot de franc-tireur mené par l'Église catholique, c'était bien là la capitale.
Michel Collot.
Il est un fait que ce cas malheureux d'une ville qui est complètement anéantie sert les intérêts de la propagande alliée.
Ce qui a appelé le plus à l'imagination de la population et surtout à l'imagination de l'opinion publique internationale, c'était l'incendie de la bibliothèque de l'université.
Marc Doré, archiviste à l'université de Leuven.
C'est peut-être un peu paradoxal parce que, bon, comparé avec la douleur individuelle des familles, la perte d'une bibliothèque, bon. Mais en 1914, c'était vraiment un scandale, surtout dans la presse américaine, dans la presse anglo-saxonne, et il y avait immédiatement des reporters, des correspondants de guerre qui ont envoyé des reportages à leurs journaux américains et anglo-saxons. Louvain a signifié un certain déclic, dans l'opinion internationale, surtout chez les Américains.
On va parler de la pauvre petite Belgique et on prendra le cas particulier de Leuven pour la destruction de la bibliothèque, qui est un crime contre la culture.
Michel Collot, professeur d'histoire.
Donc on va évidemment amplifier la cruauté de l'ennemi. On va parler de barbares, de sauvages, de hordes saxonnes.
Nicolas Évrard, historien.
On parle de fureur teutonique, on parle de Attila et ses Huns.
Les Allemands avaient une mauvaise réputation.
Francis Ballas, professeur d'histoire, ULG.
À la suite d'un discours très belliqueux de Guillaume II, le fameux discours du Kaiser en 1900, hein, « Conduisez-vous comme les Huns d'Attila ».
On mettait ça en exergue pour bien montrer que l'adversaire était inhumain, que l'adversaire avait brisé les lois de la guerre.
Sophie de Scarp-Driver, professeure d'histoire, Université de Pennsylvanie.
Et que dès lors, il s'agissait d'une croisade, qu'il s'agissait d'une guerre juste.
Et une partie de l'opinion anglaise n'a peut-être pas envie d'aller faire la guerre sur le continent. Et il faut les fanatiser, d'où toutes les affiches « Remember Belgium », dont la plus frappante, c'est un soldat allemand qui tire par la main une gamine de 12 ans. Il n'y a pas de message expliqué, mais on voit bien ce qu'il a l'intention de lui faire.
Et la pauvre petite Belgique, victime de cette déferlante de barbarie,
Simon Alexandre, historien,
va être utilisée de manière systématique pour mobiliser des soldats venant des quatre coins du monde.
Comme ça, c'est devenu une véritable guerre mondiale.
Du côté allemand, évidemment, il y a une contre-propagande.
Toute la presse allemande, il suffit de la voir, publie des récits abracadabrants que les jésuites de Liège se sont munis d'armes et ont attaqué les Allemands.
Les jeunes filles, les femmes, qui avec les aiguilles allaient rendre aveugles, crever les yeux des soldats allemands, ou les empoisonner, ou même les castrer.
Bien sûr, on attaque les ambulances, etc. Et j'en passe.
Ce carbistouille, ça, c'est pas vrai, ça.
Et quand on n'a pas de photos, on fait des dessins, où on voit les femmes belges vidant des bassines d'huile bouillante par les fenêtres sur les Allemands.
Les femmes et les enfants jouent un rôle dans la mesure où, dans l'imaginaire du franc-tireur, le pire des francs-tireurs pourrait être justement le civil apparemment le plus innocent, ou la plus innocente, en l'occurrence les femmes et les jeunes filles.
John Horn.
Donc, curieusement, les Allemands se sont érigés en victimes, se sont considérés en tant que victimes avant de et afin de pouvoir commettre les violences qu'ils ont commises.